En vivant dans une communauté monastique, à la fois tu es comme dans un cocon où tous tes besoins sont pourvus, et à la fois en tant que personne, tu n'as rien en propre. Cela t'apprend à être créative, à t'appuyer sur les talents des autres aussi, être capable de mutualiser ces talents, c'est une riche forme d'intelligence. Dans cet épisode, je te partage ce que mon expérience monastique m'a appris, ou pas, sur l'intelligence financière. Force d'appartenance à une communauté et relative précarité individuelle, créativité personnelle et mutualisation des dons. Ça t'intéresse? À tout de suite! Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast par des femmes pour des femmes. Plus de vie, c'est une thématique par mois, déclinée à travers des interviews, des partages, des réflexions et des méditations. Et c'est pour toi, femme qui cherche à être toujours plus vivante et incarnée. Buen camino! Dans l'épisode précédent, j'ai reçu Céline Laura, qui nous a notamment parlé de l'importance de recevoir. S'il y a bien un lieu où tu apprends à recevoir, car tu ne peux pas prendre par toi-même, c'est le monastère. Cette saison 2 est sur l'intelligence financière. Abonne-toi si tu veux rater aucun épisode. Cela peut paraître paradoxal de partir de mon expérience monastique pour parler d'intelligence financière. Et en fait, c'est vrai que cela l'est. Au monastère, tu vis, comme je l'ai déjà dit, comme dans un cocon. Tous tes besoins sont pourvus. Tu es logé, blanchi, nourri, comme on dit. Tout est fait pour que ta préoccupation soit, comme dit saint Benoît, de chercher Dieu. Hein, donc, les contingences matérielles, comme se nourrir, s'habiller... Voilà, être chauffé, etc., sont organisés de façon à ce que tu ne t'en soucies pas, sauf si tu en es chargé, voilà, comme célérière, comme membre du conseil économique, mais du coup, ça ne concerne pas toutes les sœurs et à tout moment. Et donc, ce que je vous disais déjà, hein, c'est que c'est assez, du coup, flippant quand tu, éventuellement, tu sors, de te retrouver sans ce cocon bienfaisant qui te protège, quoi. Donc, c'est en vue d'un beau projet, hein, de s'occuper de sa vie intérieure, on va dire. Mais ça a ses limites aussi d'un peu de déresponsabilisation, voire d'infantilisation parfois. Je vais te donner des exemples. On va faire des allers-retours peut-être avec la vie concrète, hors du monastère, je veux dire. C'est pas, dans le monastère, on n'a pas de vie concrète, mais pour voir ce qui est transposable, les leçons, les apprentissages que j'ai pu faire... à travers ce qui est en positif ou négatif, si je puis dire, mais on a toujours quelque chose à apprendre. Un des points, moi, qui m'avait paru très irréaliste et qui m'avait surprise, c'est quand j'ai reçu le service de la cuisine. Donc j'ai été chef de cuisine pendant 10 ans, après avoir été aide de cuisine pendant un certain nombre d'années. Eh bien, je demande, est-ce qu'il y a un budget ? Et non, en fait, il n'y avait pas de budget, par exemple. Donc tu fais la cuisine pour entre... 40 et 60 personnes, on va dire, et tu n'as pas de budget. Pour moi, c'était assez flippant aussi. Donc, je m'en suis fabriqué un pour avoir une idée. On m'a dit, si tu dépasses, on te dira, quoi. Donc, je me suis fixée sur ce que ma prédécessrice faisait à la cuisine au niveau du type d'aliments qu'on prenait, du type de dépenses. Mais je me suis fait mon budget, on va dire, en pratiquant, pour avoir quand même une idée de ce que je dépensais et avoir des repères, quoi, parce que sinon je trouvais ça assez irréaliste de partir comme ça. Alors ça, c'est la question du budget, c'est aussi, ça peut peut-être te concerner. Est-ce que toi tu fais un budget? Alors après, selon combien tu gagnes, c'est peut-être pas utile. Je sais que quand j'ai des moments de ma vie, depuis que je suis sortie, où j'ai mieux gagné ma vie, il y a un moment, j'avais une idée, on va dire, grosso modo, de ce que je dépensais, par exemple, pour la nourriture, mais je me fatiguais pas à compter au centime près, alors qu'il y a d'autres fois où je savais que j'avais 30 euros par mois pour me nourrir, et là, pour le coup, je faisais très attention. Donc, le budget, c'est important quand même d'avoir cette notion de budget pour y voir clair pour toi, pour ta vie, selon tes ressources, quoi. C'est important de mettre les deux en lien. Par ailleurs, si je reviens à la vie bénédictine que je menais, donc je vais parler souvent de Benoît. Hein. Benoît, c'est Saint Benoît. Hein. Donc Saint Benoît avait une vision du monastère comme une espèce d'unité en soi, hein, où tout est prévu. Donc on prévoit dans le plan du monastère de l'eau, un moulin, le blé pour faire le pain, pour se nourrir. Enfin, il y a tout qui est à l'intérieur du monastère. Donc le but étant de vivre l'autarcie sans avoir à se déplacer. Hein. Cela, comment est-ce que ça peut être transposable pour nous? Ça peut être intéressant d'y réfléchir pour nous-mêmes. Voilà, où est-ce que je vis? Est-ce que... ça ne veut pas dire qu'il faut forcément viser l'autarcie complète, hein, mais comment est-ce que je peux avoir une certaine autonomie? Moi, je sais que quand je me suis installée là en Normandie, je me suis renseignée auprès de personnes qui vivaient déjà à la campagne et qui m'ont dit « Non, prends pas de poêle à peler Le bois à la campagne, tu en trouves toujours. Bien m'en a pris de les écouter parce que bah, les pelées ont augmenté fortement et le bois, de fait, j'en trouve. Donc, il y a toujours des moyens voilà, de s'arranger. Donc, comment est-ce que je peux être autonome pour l'un ou l'autre chose? Pareil, avec les temps de sécheresse qui arrivent, j'avais un ancien système d'assainissement que j'ai laissé pour en faire une citerne. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver des moyens pour se débrouiller avec selon la situation où on est. Moi, j'ai essayé de faire un peu un jardin, mais je n'ai pas le temps, et ni l'énergie, ni la compétence. Et donc, il y a une AMAP qui s'est créée à côté de chez moi, la ferme Espérance, à Maloui. Et donc, j'ai décidé de souscrire à cette AMAP. Donc, j'aide une ferme locale. Et moi, en retour, je reçois des bons légumes qui sont cultivés par des gens qui sont compétents pour ça, des légumes de qualité. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ce lien aussi? Les pommes de terre, je les achète à un cultivateur local aussi. Donc, plutôt que de l'acheter en grande surface, je vais chez le cultivateur directement qui me les vend. Donc, c'est moins cher d'une part pour moi et le cultivateur fait plus de bénéfices parce qu'il n'a pas de marge qui est prise par ailleurs. Et donc, tout le monde est gagnant. Voilà. Je sais que quand j'étais cuisinière, ça me choquait qu'on achète les légumes qui venaient de Lisieux à 3/4 d'heure de là. Alors qu'on était dans la vallée du Bec et que la ferme du Bec s'était installée. Donc j'avais fini par obtenir qu'on crée un partenariat avec la ferme du Bec pour avoir des légumes locaux, quoi. Alors pas tous, hein, mais au moins en partie, quoi. Donc c'est voilà, comment est-ce qu'on peut penser circuit court, pas forcément autarcie complète, hein, si vous le souhaitez, vous y arrivez, c'est possible, mais c'est pas toujours possible selon aussi l'endroit où vous vivez. Mais comment réfléchir à cette notion d'une certaine autonomie? Par ailleurs, si je change de sujet, la question du travail, pour Benoît, on a l'image souvent du moine copiste. Hein, donc, certes, le moine est aussi un intellectuel qui va lire la Bible, travailler la Bible. Et on a des grands moines théologiens dans l'histoire de l'Église. Mais pour Benoît, le moine travaille de ses mains. Hein, c'est un artisan. Il est appelé à vivre du travail de ses mains. Donc Céline hier parlait de regarder d'abord ses talents et de voir comment ceci est un cadeau possible pour l'autre, pour les autres. Ben voilà, j'aurais envie de dire, dans le prolongement, tu peux regarder pour toi quels sont tes talents. Est-ce que tu as déjà pensé à les mettre au service des autres contre une rémunération, hein? En France, le salariat est très encouragé. Hein, je ne suis pas du tout contre le salariat, même si je suis pour l'instant entrepreneur moi-même. Mais ce n'est pas le seul chemin possible. Tu peux mettre en place ce que Emmanuel Gaillardi appelle un side project, donc d'avoir à côté, si tu veux rester salarié, à côté de ton activité de salarié, voir qu'est-ce que tu peux mettre en valeur comme talent que tu as et mettre en place un revenu complémentaire pour t'aider. Benoît, à l'époque, dit de ne pas vendre les produits chers. Alors lui, c'est pas par loi, pas pour vendre le moins cher pour forcément gagner de l'argent, c'était pour une question de justice, hein, d'honnêteté. Aujourd'hui, les produits monastiques sont plutôt chers car ils sont de qualité. C'est un peu le paradoxe, hein, qu'on voit avec des produits comme le lin qui viennent de Normandie normalement à 80% et qui faisaient parfois deux fois le tour de la planète pour aller en Chine. Bon, depuis le Covid, avec l'augmentation des coûts du carburant, on a heureusement enfin une usine qui vient de se réinstaller de lin en Normandie, trouvant que c'était en effet idiot de faire ces allers-retours. Et donc comment, voilà, toi, tu peux mettre au prix qui est juste, hein, donc mettre, sous-évaluer ce que tu pourrais apporter et pas forcément juste ni pour toi ni pour les autres. Voilà, avoir des prix très élevés qui sont abordables par personne, bon, c'est aussi une question. Donc ça, la question des prix, c'est tout un sujet, hein. Tout un sujet. L'autre élément que je voulais apporter, c'est la question de demander. Hein, je disais qu'il y a un lien avec l'épisode de Céline qui parlait de savoir recevoir. Ça, c'est vrai que c'est une des choses qui marque quand tu rentres en communauté, c'est que, y compris quand tu dois changer de brosse à dents, donc c'est vraiment des choses modestes, tu demandes en fait au début quand tu arrives. Donc un stylo, tu demandes, un nouveau cahier, tu demandes. Donc apprendre à demander et à recevoir. Ça, c'est aussi tout un chemin intérieur selon ton histoire, selon ton propre chemin. Moi, je vais t'inviter aussi à savoir demander, hein, demander de l'aide. C'est pas honteux, même si ça peut paraître... aujourd'hui, on prétend une certaine indépendance. La vérité, c'est que on est codépendant, hein, qu'on le veuille ou non. On dépend aussi des autres et c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire que c'est là qu'on fait société, c'est là qu'on crée ce que saint Paul appelle un corps, donc en parlant de l'Église, mais ça veut dire on est une unité à plusieurs et pas tout seul, quoi. Donc comment j'apprends à recevoir quand on me propose de l'aide? Moi, j'avoue que c'est parfois compliqué pour moi. Je suis beaucoup dans le sauveur et dans l'aide de l'autre. Et j'ai parfois du mal à accepter l'aide qu'on me propose, à l'accueillir simplement. Donc c'est un chemin aussi d'accueil de son humanité. On n'est pas toujours au top et on a parfois besoin des autres. Et c'est OK, en fait. Voilà. Donc comment accueillir ça? Comment savoir demander? Hein, il y a la parole, pareil, biblique, qui dit « Demandez, vous recevrez ». C'est le Christ qui nous dit ça, tout simplement. Frappez, on vous ouvrira. Parfois, on n'ose pas demander. Une de mes sœurs de communauté était très forte là-dessus. Elle disait, de toute façon, qu'est-ce que tu perds si, au pire, on te dit non, quoi. Donc, tu perdras rien et tu peux gagner tout. Donc, ne pas hésiter à demander si tu as envie de quelque chose. Ça peut te nourrir et te t'apporter ce que tu souhaites. Donc, ne pas hésiter à demander et savoir apprendre à recevoir. Un autre point, pour moi, un des plus importants, c'est l'aspect créativité. Comme tu n'as pas d'argent, quand, par exemple, on fait à la fille Fanny, on se faisait des cadeaux mutuels, on tirait le nom d'une sœur et on devait lui faire un cadeau, ou on faisait une pêche à la ligne, donc chacun faisait un petit cadeau et on tirait un cadeau à la ligne, et donc voilà, on devait faire un cadeau chacune pour une autre sœur. Mais on n'a pas d'argent, hein, donc... Il y en avait qui refilaient le cadeau qu'elles avaient reçu éventuellement l'année d'avant pour l'année d'après. Ça existait. Mais c'était une occasion de pouvoir mettre en œuvre sa créativité. Comment est-ce que, à partir de ce que je peux avoir sous la main, je fabrique quelque chose moi-même, je crée quelque chose moi-même pour offrir un cadeau qui soit de valeur. Donc, et finalement, par exemple, les cartes, ça peut faire sourire, voilà, quand on vient de l'extérieur, mais par exemple, les cartes de Noël, ça arrivait en effet qu'on recycle des cartes qu'on avait reçues, qu'on remette un papier dessus pour refaire une nouvelle carte et l'envoyer à telle ou telle personne à qui on avait envie d'écrire pour Noël. Ou bien de dessiner soi-même une carte. Donc, c'est une occasion de faire autrement. C'est sûr que ça prend plus de temps que de faire par soi-même, que d'acheter, on va dire, quelque chose. Ça prend plus de temps, mais ça construit davantage d'être capable de... ça construit ta créativité, ça construit dans ta manière de faire les choses, quoi. Donc, c'est plutôt chouette. Et moi, les moments marquants pour moi dans ça, c'était notamment les fêtes où je me souviens des 50 ans d'une sœur. Bon, on a fait tout un spectacle très sympa autour de la mélodie du bonheur. Et en fait, on, pour les 50 ans d'une sœur, et on a, ben, on a chacune a participé. On a fait tout un décor peint à partir sur d'un vieux drap qui était abîmé. Donc on a recyclé pour ça. On a fait des marionnettes avec des vieilles chaussettes et des bulles de laine. Et ça a été un spectacle super sympa. Où, pareil, la créativité, je me souviens d'une sœur âgée qui participait, parce qu'on faisait, on utilisait un morceau qui utilise la gamme, et elle était chargée de faire le la, et le la, elle était un peu sourde, donc elle s'entraînait, je lui avais dit que la tonalité du téléphone, c'était le la, donc elle décrochait le téléphone régulièrement, et elle s'entraînait à faire la, à partir de la sonnerie du téléphone. Donc ça donne, voilà, ça donne des aspects différents, que quand on a tout sous la main pour faire tout comme il faut, tout parfaitement. Donc il y a un aspect un peu artisanal là aussi, mais qui permet de réfléchir autrement. Et donc ça, bah, je pense que c'est très pertinent aussi pour notre vie, c'est-à-dire avant d'aller acheter quelque chose, se poser la question, est-ce que je peux faire autrement ? Est-ce que je peux créer quelque chose ? Est-ce que je peux faire par moi-même à partir de ce que j'ai déjà. Donc voilà pour la créativité. Alors, quelles leçons je retire de cette expérience ? La question de la dépendance, hein, donc le fait de devoir dépendre, ben, ça fait réfléchir aussi en creux, on va dire, à la question de l'indépendance. Je renvoie à l'interview de Nathalie Cariou qui a une réflexion intéressante sur la différence entre indépendance et liberté, hein, en disant qu'il y a différents types de dépendance et qu'il y en a qui peuvent être aussi voilà, bonnes. Enfin, voilà, c'est pas exactement... voilà, on peut avoir une dépendance en se mettant en couple, par exemple, et c'est pas forcément une dépendance qui est négative, on va dire. C'est le fait qu'on va construire ensemble les choses et ça peut donner plus de liberté, voilà, par exemple. Mais réfléchir à cette question-là, de quoi je dépends et de quelle est la liberté que je veux avoir. Avoir aussi cette simplicité de demander, hein, et ça peut être de l'argent, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être des services, ça peut être aussi un prêt qui est voilà, ponctuel parce que là je suis en difficulté, donc j'ose demander à des proches. Voilà, c'est une des sœurs de communauté qui disait toujours voilà, quand même, une des grandes paroles de Jésus, c'est demander et vous recevrez. Donc ne pas hésiter à demander, hein. Je me souviens que jeune étudiante, ma grand-mère m'avait dit, connaissait un chef d'établissement sur Rouen, et moi j'avais la fierté de trouver par moi-même, et donc bon, j'avais trouvé un poste par moi-même, mais en fait, qui m'a fait découvrir une congrégation que j'aimais beaucoup et avec qui j'ai vécu beaucoup de choses. Donc, j'ai pu aller au Cameroun et tout, donc je ne regrette pas. Mais en l'occurrence, l'établissement dont son ami était chef d'établissement était juste à côté de là où j'étais. Ça aurait été futé peut-être d'avoir l'humilité d'accepter en fait cette proposition. Donc, ne pas hésiter. Voilà, la dépendance, ce n'est pas forcément que du négatif. Donc, voir quels sont les liens, on va dire, qui peuvent me permettre de trouver des choses et avoir cette simplicité de demander. L'autre élément, c'est l'aspect de force du groupe. Hein. Comment est-ce que je peux répliquer ça parce qu'il y a différents types de groupes. Hein. Elle a fait allusion dans son interview à l'aspect du sel, hein, donc des fois on peut faire des échanges de services, des fois on peut avoir la source du groupe, ça peut être de demander à des voisins. Moi, quand je suis arrivée, on m'a demandé de tailler ma haie, j'avais absolument rien comme matériel, je venais d'acheter une maison, donc c'était déjà des énormes frais, j'avais pas du tout de tronçonneuse, de taille haie et tout. Et d'un côté, on m'a prêté, un des voisins a dit, coupe-moi une perche à la hauteur de ce que tu veux comme haie, hauteur de haie, et moi je te ferai les têtes de tes tuyas. Donc c'est ce qu'il a fait. Et de l'autre côté, ma voisine me disait, est-ce que tu pourrais tailler, parce que là ça n'a pas été fait depuis plusieurs années, parce que le propriétaire, j'ai acheté à la maison d'un propriétaire qui était mort 4 ans avant, donc il n'y a eu pas d'entretien du tout du jardin pendant ces temps-là, enfin quasiment pas. Et en fait, elle m'a dit, j'ai dit oui, je veux bien, mais j'ai pas de taille-haie. Bon, elle m'a prêté son taille-haie. Donc la force de la communauté, ça peut être voilà, de proximité, ça peut être de famille, ça peut être par des associations, ça peut être aussi par la ressourcerie. Donc ne pas hésiter aussi à dire, voilà, j'ai tel ou tel besoin. Il n'y a pas de honte à demander. En fait, les gens sont contents aussi de rendre service. Et on n'est pas obligé d'avoir tout soi-même. C'est un peu poussé à notre société d'avoir tout nous-mêmes. Mais parfois on peut voilà, collaborer, partager des choses, surtout si on n'en a pas besoin tout le temps, quoi. Et puis il y a l'aspect aussi, par exemple, soit ressourcerie, soit moi j'ai acheté un taille-haie pour le coup à 10 € sur une foire à tout, quoi. Donc je lui demandais, il marche, et en fait oui, c'est vrai que ça marchait, parce que voilà, je l'utilise depuis, là, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, c'était l'été dernier, et 10 balles, quoi. Donc il y a possibilité de faire autrement, voilà. Sur le chemin de Compostelle, dont je vais vous parler bientôt, dans l'épisode 17, je poussais par exemple à ce que nous faisions des repas partagés, voilà. Comme ça, chacun apporte quelque chose. D'une part, on vit un temps de repas beaucoup plus sympa parce qu'on est tous ensemble plutôt que de manger chacun de son côté. Et ensuite, chacun fait des économies et on mange un repas beaucoup plus riche. Voilà, parce que l'un va apporter une pastèque comme entrée, l'autre va apporter les pâtes, l'autre la sauce tomate, l'autre une bouteille de vin, l'autre du pain, et voilà, etc. Et du coup, on a un repas complet et en plus, on vit un temps partagé. Donc, ne pas hésiter, voilà, à s'appuyer sur la communauté, les dons des autres, avoir ce réflexe-là. Enfin, je voulais terminer par les apprentissages, donc je vais revenir un peu sur ce que j'ai pu dire. Utiliser la créativité, est-ce que je peux faire avec les moyens du bord ? Quand j'étais à Montréal, les sœurs, on était 10 d'une congrégation de communautés diverses, hein, de partout dans le monde. Et on avait une belle chapelle, parce qu'on avait été une grande communauté, c'était une des plus grandes de la formation, on n'avait pas de lumière au niveau du sanctuaire. Donc ça c'est une lumière symbolique, hein, qui veut dire que il y a Jésus dans le tabernacle, voilà, une présence divine pour quand on a la foi et quand on est consacré, ça a du sens. Les sœurs m'ont confié d'aller d'acheter une lampe, enfin de trouver une lampe. Et donc je suis allée voir les magasins, il y en avait un juste à côté de culte, mais ça coûtait 200 balles la lampe. Or, on n'avait pas du tout ces moyens-là. Et donc, j'ai plutôt, du coup, regardé qu'est-ce que j'ai dans la maison. Et donc, j'ai trouvé des veilleuses en plastique. J'ai trouvé une lampe que je pouvais bidouiller en rajoutant la veilleuse en plastique dessus. Et comme ça, j'ai créé une lampe de sanctuaire à partir de ce que j'avais déjà. Et en fait, les sœurs m'ont été très contentes de ça. Et ça m'a coûté 0 €. Voilà, ça nous a coûté 0 € versus 200 $ qui était le prix qu'on avait vu dans les magasins, quoi. Donc comment, voilà, avoir ce réflexe, qu'est-ce que j'ai déjà, comment je peux utiliser, comment je peux bricoler quelque chose. Autre exemple, maman avait une vieille yaourtière qu'elle voulait donner à Emmaüs. Je lui ai dit, est-ce que je peux être Emmaüs? Elle l'avait mis de côté parce que le couvercle était en partie abîmé. Donc j'ai réparé le couvercle et puis j'ai toujours cette yaourtière à la maison qui fonctionne très bien et qui fait des très bons yaourts. Donc voilà, c'est comment on peut réparer des fois, au Trait d'Union, qui est une association, un café associatif qui s'est ouvert sur Bernay il y a un an maintenant, il y a un atelier de temps en temps de réparation pour apprendre à réparer par soi-même. Trouver des moyens comme ça pour ne pas dépenser en plus, quoi. Voilà. Parfois aussi, il y a des histoires d'assurance. Quand on achète quelque chose, c'est assuré pendant tant de temps. Est-ce que je fais réparer plutôt que de racheter quelque chose de nouveau ? Il y a aussi, voilà, apprendre à être créatif dans ce sens-là. Parce que voilà, des fois, on va racheter alors que c'est encore sous assurance et que ça pourrait, du coup... Alors, il faut faire la démarche, donc ça demande un peu de temps, hein, c'est sûr. Mais ça évite de débourser de nouveaux euros, quoi. Hein. Un autre élément, c'est mettre ses dons au service pour recevoir un revenu. Donc c'est tout travail mérite salaire, hein, c'est dans l'évangile ça aussi. C'est plutôt Saint Paul, je pense. Si je sais écrire, compter, parler, accompagner, jouer de la musique, voilà, quels sont mes dons, aller chercher mes dons, ce que je fais naturellement, peut-être que ça me fait plaisir de les donner gratuitement et c'est ok aussi, hein. Mais peut-être que ça peut aussi être monétisé à un moment. Donc comment est-ce que je peux le mettre en valeur ? Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, voilà, c'est beaucoup plus facile de se mettre à son compte et de démarrer, surtout avec les statuts qui existent comme auto-entrepreneur en France. J'imagine qu'il y a la même chose en Suisse, en Belgique ou au Canada ou ailleurs. Donc comment, avec des statuts simples, maintenant, on peut se mettre à son compte et démarrer. Et donc aller chercher ces dons et les mettre au service de la communauté, En communauté monastique, bien sûr, on ne le fait pas contre revenu, mais on mutualise les dons. Et là, bah, comment... Mais ça peut être fait aussi. Hein. J'ai une bonne amie moniale qui est violoniste professionnelle. La communauté cherchait des moyens d'avoir d'autres sources de revenus et elle a proposé de faire des concerts. Donc, une fois par an, elle donne un concert. Je crois qu'au début, c'était avec un vieux monsieur qui était violoniste aussi local. Et bah, c'était une manière d'avoir un revenu. Donc, c'est une autre fois, quand on faisait notre formation monastique, on a découvert beaucoup d'ateliers de céramique. Bah, elle a récupéré un vieux four de céramique qu'on lui a filé. Et elle s'est mise à faire de la céramique. Et donc, elles font aussi des ventes maintenant de céramique. Et donc, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions? Elles ont aussi quelqu'un qui était parti à la retraite à un moment. Et... comment continuer à faire le jardin en ayant une personne de moins qui travaillait à temps plein au jardin, quoi. Donc, elles sont renseignées parce qu'il y avait des ânes dans le coin, donc une dame qui avait des ânes, et donc voir combien, quel coût ça représentait, et que finalement ça permettait d'entretenir le terrain sans avoir à tondre, par exemple, parce qu'on a des bêtes dessus, quoi. Donc, voilà, comment on réfléchit autrement quand on a des moyens qui diminuent. Donc avoir cette créativité, cette attention à la communauté, à d'autres manières de faire, et des fois aussi voilà, mutualiser les dons, donc s'associer avec d'autres pour apprendre, recevoir de l'autre, se soutenir, rendre mutuellement service. Hein. Donc ça, c'est des choses qu'on vit voilà, en communauté, qu'on vit aussi en famille, en couple, éventuellement avec des amis. Donc comment je réfléchis pas forcément toute seule, et comment ça peut voilà, me permettre de trouver des solutions en ne restant pas seul et oser en parler aussi, hein, c'est assez fondamental. Parfois on n'ose pas dire qu'on est en difficulté ou quoi, et moi là récemment j'avais des difficultés financières, et en fait il se trouve qu'une voisine a énormément de bois parce qu'elle a un gros parc. Bon, ben, elle m'a dit, mais en fait j'en ai beaucoup trop pour moi, vous vous servez quand vous voulez. Bon, bah, ça me fait du bois de chauffage comme ça, gratuit, quoi. Donc il faut aller le chercher, il faut le couper. Mais je veux dire, quand on sait le prix de l'énergie aujourd'hui, c'est important. Et moi, dans l'autre sens, voilà, j'ai proposé à des amis récemment, parce que j'ai un terrain où il y a des bouts de bois qui sont aussi entreposés, de dire, bon, bah, vous pouvez aussi venir vous chercher si vous voulez. Moi, étant donné que vous avez à le couper et tout ça, je vous laisse vous servir et vous servez gratuitement, mais ça permet, moi, de rendre mon terrain plus propre et eux d'avoir du bois gratuit, quoi, entre guillemets. Même s'il y a du travail et du temps à mettre dedans, c'est quand même pas négligeable au coût de l'énergie aujourd'hui. Donc voilà. Donc créativité, mutualisation, c'est un petit peu les deux mots phares. L'artisanat, enfin voilà, tout ce qu'on peut réfléchir ensemble avec d'autres. Et à partir de ses propres dons, pour grandir en intelligence et en liberté financière. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura apporté, que des idées sont venues, donc n'hésite pas à me les partager, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. Donc mon adresse est cecile@coachplusdevie.com, donc n'hésite pas à me dire si tel ou tel élément t'a particulièrement touché, marqué. Et puis à demain. Dans cet épisode, je t'ai partagé les apprentissages reçus de ma vie monastique pour grandir en intelligence financière, sortir de la dépendance, s'appuyer sur ses talents et la force du collectif pour pouvoir avancer sur ce chemin de liberté. En écoutant cet épisode, peut-être as-tu pensé à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien, alors n'hésite pas à lui partager. Dans le prochain épisode, je reçois Nathalie Cariou, la formatrice en intelligence financière en France depuis 12 ans. Nathalie est concrète, a une analyse fine et complète du rapport à l'argent. C'est que du bonheur, elle était très généreuse, ça dure près d'une heure. Dans les notes d'épisode, tu trouveras justement un lien vers le défi liberté de Nathalie qui commence fin janvier. D'ici là, eh bien, buen camino !